Donc Jean-Bernard Leroy à l'appareil. Je reprends donc mes laïus, mais cette fois-ci je vais faire une interruption en ce qui concerne les commandements de Dieu pour dire quelques mots de la dernière encyclique de Benoît XVI, Caritas in Veritate. C'est une encyclique d'une intelligence remarquable. On voit que le Saint-Père a pris en main et a examiné toutes les causes des désordres actuels sur le point de vue économique, financier et général. Il a tout examiné et les causes, naturellement, c'est avant tout l'absence de Dieu. Je ne saurais trop recommander la lecture de ce document dont je vais lire quelques petits extraits. Je dois beaucoup d'ailleurs au numéro 1451 du 29 août, le dernier numéro paru de L'Homme Nouveau, qui consacre la moitié de son numéro à cette encyclique qui en vaut la peine. Cette encyclique a le mérite extraordinaire, donc, ai-je dit, de faire le tour des questions économiques actuelles avec une compétence hors de pair. C'est pour ça qu'on en a très peu parlé, car tous ceux qui l'auraient voulu n'ont rien à dire contre. Ce qu'il dit est vrai. Cette encyclique se veut dans la continuité de l'encyclique Populorum Progressio, qui a été faite par Paul VI et qui date de 1967, mais en l'adaptant au développement dans le contexte actuel de mondialisation généralisée, comme on dit, c'est-à-dire dans une situation de gouvernement généralisé de la puissance financière. Benoît XVI avait déjà déclaré dans sa lettre aux évêques du 10 mars 2009 « En ce moment de notre histoire, le vrai problème est que Dieu disparaît de l'horizon des hommes, tandis que s'éteint la lumière provenant de Dieu. » Nous sommes exactement dans la situation de la tour de Babel, que Dieu regardait de l'extérieur car elle était chassée de l'intérieur. L'humanité manque d'orientation et les effets destructeurs s'en manifestent toujours de plus en plus en son sein. La priorité, dit le Saint-Père, est de rendre Dieu présent dans le monde. Le Christ nous avait pourtant prévenu : vous ne pouvez servir deux maîtres. Il n'a pas ajouté Dieu et Satan, mais bel et bien Dieu et l'argent. Comme si l'argent était une incarnation, on dirait peut-être une hypostase, de Satan. Comme Satan, l'argent peut se manifester par du néant. À l'automne 2008, devant les évêques, le Saint-Père avait déclaré « Aujourd'hui, nous le voyons bien avec la faillite des grandes banques, l'argent disparaît, il n'est rien. Des milliards, soi-disant, se sont évaporés, ont disparu, comme quoi avant, il n'était rien. » Je m'en aperçois personnellement quand je paie avec des chèques ou mieux avec ma carte de crédit. L'argent n'est plus qu'un jeu d'écriture. Il n'y a plus de billets de banque, encore moins de pièces d'or. Certes, ce n'est pas moi qui détiens la règle du jeu. C'est pourquoi je dois être économe. Mais au plus haut, que signifient les variations boursières? Que signifient les variations des cours d'action d'usine ou de prestations de services d'un jour sur l'autre? On dit que je ne sais trop quelle entreprise a perdu 3% de sa valeur, mais elle travaille toujours de la même manière, avec le même personnel pour produire les mêmes produits. Ces 3% en plus ou en moins sont simplement une évaluation de personnes généralement bien écoutées qui jouent avec cette entreprise sans même exactement savoir ce qu'elle fait et encore moins la technique et encore moins le soin de tous ceux qui travaillent pour elle. Pourtant, comment peut-il y avoir des milliards d'échangés chaque jour entre des mains, de telles mains irresponsables et parfaitement incompétentes, sauf dans la matière du jeu de Monopoly qui est actuellement la comédie boursière. On a dit que tel banquier ou tel trader avait détourné des milliards d'euros ou de dollars. Ce ne sont là que jeux d'écriture ne correspondant à rien de concret. On sait qu'un million de secondes correspond à peu près à 15 jours et un milliard de secondes à 30 ans. Pardon. L'argent en soi n'est qu'un instrument et peut n'être que du vent. Ces quelques mots n'ont pas la prétention d'être la synthèse d'un texte si dense, pratiquement impossible à résumer, mais d'en extraire des idées fortes dans le domaine d'une doctrine sociale où l'on voit s'affronter deux erreurs aussi dévastatrices l'une que l'autre, que l'on appelle de socialisme et de libéralisme. Le pape ne les nomme pas en tant que tels, car ce sont des mots qui sont souvent pris dans des sens différents, voire contradictoires, tout comme gauche et droite. Il définit et juge des choses réelles. Je pioche dans ce trésor. Je vois l'activité économique ne peut résoudre tous les problèmes sociaux par la simple extension de la logique marchande. Celle-ci doit nécessairement viser la recherche du bien commun. que la communauté politique doit aussi prendre en charge. L'État, dit-on, range la justice, l'État est responsable de la sécurité, on voit bien sa faillite actuellement, mais il est également responsable du bien commun. Le rôle de l'État n'est pas de choisir le centre, de choisir de la circulation à gauche et à droite. Le pape ajoute, le marché n'est pas de soi et ne doit pas devenir le lieu de la domination du fort sur le faible. Le profit est utile si en tant que moyen il est orienté vers un but qui lui donne un sens relatif, aussi bien à la façon de le créer que de l'utiliser. La visée exclusive du profit, s'il est produit de façon mauvaise ou s'il n'a pas le bien commun pour but ultime, risque de détruire la richesse et d'engendrer la pauvreté. Et on dit aussi, abandonné au seul principe de l'équivalence de valeur des biens échangés, le marché n'arrive pas à poursuivre la cohésion sociale, on le voit actuellement, dont il a pourtant besoin pour bien fonctionner. Je me rappelle mon ahurissement lorsque, devant telle idée que j'ai pu avoir sur une nouvelle technique, mon patron m'a dit « mais les actionnaires ne l'accepteront peut-être pas ». Je ne me rappelle plus du tout de quoi il s'agit, mais j'ai pensé que si par exemple je perdais un enfant, mon chef direct assisterait à l'enterrement. Le directeur enverrait un bouquet de fleurs, mais l'actionnaire se moquait perdument de moi, de mon enfant et de tout ce qu'on peut avoir. De même, si une panne intervient dans un service d'eau et que l'on dit au préposé à 2h du matin qu'il faut qu'il aille la réparer, sinon l'actionnaire ne sera pas content, il maudira l'actionnaire, s'en fichera et retournera se coucher, sauf si on le menace de sanctions, auquel cas, à la prochaine occasion, il mettra le feu à la boutique. Si on lui dit en revanche que la petite vieille du 6e ne risque de ne pas pouvoir prendre son médicament, là, il grommellera entre ses dents, mais il pourra, s'il a du cœur, aller réparer la fuite d'eau pour que la petite vieille du 6e puisse prendre son médicament. On n'est pas uniquement muni par le profit. Le pape le dit sous cette forme, sans formes internes de solidarité et de confiance réciproque, le marché ne peut pas remplir la fonction économique. Je pense à la devise de Michelin, fondateur de cette entreprise. Il disait « Notre but est de produire le meilleur pneu au meilleur prix ». Ce qui débouche sur la notion de justice, en général complètement absente du monde libéral, qui ne parle jamais de justice. Justice qui s'applique à tous, aux patrons et aux ouvriers. Comme la partie la plus grave, comme le nid, la plus grande partie des socialistes pour qui n'existe que la lutte, la justice consistant à dépouiller ce que le pouvoir dessine comme buveur de sueur du peuple. Léon XIII disait déjà qu'il y a un juste salaire permettant à l'ouvrier sobre et honnête, selon la formule du XIXe siècle, c'est-à-dire, Pie XII l'a rappelé, à l'ouvrier de vivre décemment et de faire vivre sa famille décemment. Alors, il y a tout un article de Benjamin Guillemin dans L'Homme Nouveau qui dit qu'il faut rendre à l'artisanat l'honneur du travail bien fait, ce travail dont l'avait dit Peggy. Pour un artisan, il faut que les choses soient bien faites, si l'artisan est consciencieux. Le profit ne saurait être le but de l'entreprise. Le profit n'est pas le but de l'entreprise. Pour l'entreprise, le profit est une nécessité. S'il n'a pas de profit, elle meurt. C'est une nécessité comme pour nous, le boire et le manger. Mais de même que je ne vis pas uniquement pour boire et pour manger, l'entreprise n'a pas à vivre uniquement pour faire du profit. Elle a à faire vivre pour avoir de bons produits et pour que chacun trouve dans le but de l'entreprise, dans le monde de l'entreprise, la réalisation de ses propres capacités. C'est ce que l'on appelle le bien commun. Le profit est utile, et le pape le dit, est utile en tant que moyen. Il est orienté vers un but qui lui donne un sens relatif à la façon de le créer et de l'utiliser. La visée exclusive du profit, s'il est produit de façon mauvaise ou s'il n'a pas le bien commun pour but ultime, risque de détruire la richesse et d'engendrer la pauvreté. On le voit, par exemple, l'hôtesse de l'air achetait du parfum. Et puis un jour, on a dit qu'il fallait que les hôtesses de l'air soient moins bien payées pour que tout le monde puisse prendre l'avion. Alors, la petite dame qui vendait du parfum était toute contente. Les prix ont baissé, elle a pu prendre l'avion. Oui, mais l'hôtesse de l'air était moins payée. Au bout d'un mois, elle n'a plus acheté de parfum. Du coup, la vendeuse de parfum a trouvé son salaire divisé par deux. Elle a pu prendre l'avion qu'une ou deux fois et ensuite tous deux sont retombés à un niveau bien inférieur à ce qu'il avait. Benoît XVI le résume ainsi. La gestion de l'entreprise ne peut pas tenir compte des intérêts de ses seuls propriétaires, mais aussi de ceux de toutes les autres catégories de sujets qui contribuent à la vie de l'entreprise. Les travailleurs, les clients, les fournisseurs des divers éléments de la production, des communautés humaines qui en dépendent. Et je remarque que dans les entreprises d'avant, les anciens de l'entreprise se réunissent en club, sont contents de se retrouver, car l'entreprise était comme une grande famille. Le pape dit aussi, les droits supposent des devoirs sans lesquels ils deviennent arbitraires. Et il dit, cette chose très importante, avoir en commun des devoirs réciproques mobilise beaucoup plus que la seule revendication des droits. Cette société de droit dans laquelle nous sommes est complètement immorale parce que c'est un droit sans devoir, ça n'existe pas. La façon dont l'homme traite l'environnement influence sur les modalités avec lesquelles il se traite lui-même. Donc, tout ça, on le voit, les droits supposent des devoirs. Il faut avoir en commun des devoirs. On est le bien de l'entreprise, avoir une espèce d'honneur. Avant, les postiers, c'était la mystique du courrier. Il fallait qu'une carte postale, n'eût-il que bon baiser dessus, fût reçue en son temps par les gens à qui elle était destinée. Et il faut se rappeler que toute décision économique a une conséquence de caractère moral. En conclusion, la liberté humaine n'est vraiment elle-même que lorsqu'elle répond à la fascination de la technique par des décisions qui sont le fruit de la responsabilité morale. Et on peut dire que Dieu est le seul garant du véritable développement de l'homme. Voilà, j'ai fini ces quelques allusions. Je ne saurais trop encourager tout le monde à lire et à méditer cette encyclique qui est vraiment un monument et qui est bien autre chose que tout ce que la presse, même prétendument technique, peut vous raconter. Au revoir, je vous souhaite une bonne rentrée. La prochaine fois, je reprendrai l'examen en commençant par le 10e commandement de Dieu.